Le 12 mai est la journée mondiale de l'encéphalomyélite myalgique. Pour l'occasion, ACX vous propose 3 interviews dédiées. Anaïs Dangel, vous êtes membre active de l'association MMF, Million Missing Friends. Vous souffrez depuis 5 ans d'encéphalomyélite myalgique, communément appelée EM. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment cela affecte votre quotidien ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, je suis en état sévère, donc ça affecte beaucoup mon quotidien. Je n'arrive plus à me déplacer sur mes jambes, je suis en fauteuil roulant, même à la maison. Moi, je dis même à la maison, mais je ne sors quasiment plus, j'ai plus la force. Je sors uniquement pour les rendez-vous médicaux que je ne peux pas faire en vidéo, pour les IRM ou les examens que je ne peux pas annuler. Je suis alitée plus ou moins 20 heures par jour parce que la fatigue est trop importante. Et les petites phases que j'ai d'éveil, d'activité entre, sont de plus en plus difficiles parce qu'on va dire que mon enveloppe énergétique est de plus en plus petite. Donc, les petits, quand je parle d'activité, c'est manger, débarrasser la table, prendre une douche, ça c'est très compliqué. Au début, j'arrivais à me doucher régulièrement avec l'aide des infirmières. Là, c'est régulièrement, mais c'est moins fréquent, c'est une fois par semaine. Et même une fois par semaine, avec l'infirmière qui fait tout, je suis en malaise après. Au niveau cognitif, c'est très compliqué aussi. J'ai beaucoup de mal à rester concentrée. J'ai des trous de mémoire, des mots qui manquent. Difficile de trouver certains mots. Je ne peux plus lire. Je peux écouter du livre audio. Voilà. Et puis après, il y a les maux de tête, les acouphènes, donc les petits bruits dans les oreilles qui viennent s'afficher quand on n'en a pas besoin, les troubles digestifs. Voilà. Et puis bon, on pourrait continuer encore comme ça, mais c'est plus un. Et puis l'essoufflement est aussi assez important. Ils sont très vite essoufflés et à bout de souffle. Du coup, toutes les activités sont ralenties et raccourcies.
Quel a été votre parcours médical ? À quel moment avez-vous été diagnostiquée ?
Alors, j'ai contracté le Covid le 25 décembre 2021, cadeau de Noël. Et un deuxième, un mois plus tard, c'était à l'époque où le Delta et l'Omicron circulaient, et donc j'ai eu les deux. J'ai rapidement senti une grosse fatigue, et une fatigue anormale. On ne sent pas... on a beau dire on est fatigué, mais c'est pas une fatigue comparable à ce qu'on peut vivre quand on n'est pas malade. Et des symptômes particulier, donc on a fait plein d'examens neurologiques, des imageries et tout ça, et on n'a pas trouvé de maladie particulière, donc on est parti sur un Covid long, mais à l'époque, comme toujours aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a pas de traitement pour le Covid long, et ce qui perturbait ma neurologue, c'était le fait que je fasse des malaises post-effort. Et donc, le symptôme principal de l'EM, mais moi je ne connaissais pas du tout cette maladie. Et elle, ça a mis du temps, ça a mis 3 ans. Donc, elle m'a envoyé à Paris voir un médecin spécialisé. En l'EM, c'était en décembre 2024. J'ai passé une semaine là-bas et ce médecin m'a diagnostiqué l'EM en m'expliquant Donc là aussi, je parle très doucement, c'est parce que je n'arrive pas à parler plus vite. Et en même temps, il faut que je réfléchisse à tout ce que je vous dis. Donc ça me demande énormément de concentration. Donc voilà, ce médecin m'a expliqué la maladie en me disant, ben madame, il n'y a pas de préventif. Hein. Donc déjà, ok. Il y a des traitements symptomatiques qu'on peut tester. Mais ça marche pas, en fonction des personnes et tout ça. Et on les essaye au fur et à mesure. Et moi, en fait, c'est différent chez chacun, mais moi, depuis le début, ça fait que décliner. J'ai beau prendre les traitements, faire du pacing. Donc, le pacing, c'est la base du traitement de l'UM. Donc, le fractionnement, si vous voulez, des activités, que ce soit physique, cognitif ou émotionnel, en introduisant régulièrement des temps de repos avec une hypostimulation totale, donc casque anti-bruit, masque sur les yeux, pour permettre au cerveau de récupérer. Et depuis, mon état se dégrade de plus en plus. Et depuis 2 ans à peu près, j'ai basculé en état sévère. Donc, l'état dont je vous ai parlé avant. Je ne sors quasiment plus. Et là, dans cet état sévère, je continue progressivement à sentir que les heures passées couchées ou à dormir s'allongent. Et l'enveloppe énergétique se rétrécit progressivement. Donc, on essaye avec les spécialistes de trouver des différents traitements. Mais pour le moment, il n'y a rien qui agit vraiment, quoi.
Est-ce que vous avez des conseils, bonnes pratiques pour les malades et surtout pour leur famille?
Les conseils, c'est s'écouter, se respecter. Parce que là, c'est vrai que ce qu'on nous demande de faire dans l'EM, le pacing, c'est contre-intuitif, en fait. Depuis qu'on est tout petit, la société nous dit qu'il faut être productif, qu'il faut être utile, qu'il faut travailler, que rester couché, c'est de la fainéantise. Et en fait, là, il faut. C'est de la survie. Parce que si on force, là, on aggrave notre situation. Et malheureusement, tout le monde ne comprend pas. Autour de soi. Alors, je pense que dans un premier temps, c'est important, c'est d'expliquer aux gens clairement ce qu'on vit, parce qu'ils peuvent pas se l'imaginer. Parce qu'on arrive, des fois, le temps d'une visite, à donner le change. Parce que des fois, on a ce qu'on appelle des montées d'adrénaline, j'ai de la visite qui arrive et puis du coup je suis toute contente et le temps de la visite je vais pouvoir gérer, je vais pouvoir mettre un petit sourire et c'est après qu'on paye, que le malaise post-effort, hein, c'est après. Donc on peut paraître tout à fait bien et après les gens ils repartent, ils disent elle va bien, il n'y a pas de raison pourquoi elle nous fait toute une histoire sur cette maladie. Et du coup, leur montrer ou leur expliquer au moins le quotidien derrière tout ça. Parce que ça, ils ne l'imaginent pas. Leur laisser la chance ou l'opportunité de comprendre ça. Sachant que c'est important. Et pour les familles qui s'intéressent vraiment à qui ont vraiment envie d'aider leur personne malade, c'est pas le mot... Voilà, là je commence à avoir du mal à trouver mes mots, hein, donc vous m'excuserez si c'est pas très juste ce que je dis, mais leurs parents malades, voilà, essayez de comprendre au mieux la maladie, parce qu'il y a des choses toutes bêtes. Moi, ce que je vous ai pas dit, j'ai oublié, je supporte plus la lumière, je supporte plus le bruit, donc si maintenant vous déboulez chez moi, et vous ouvrez la porte et c'est coucou et vous allumez la grande lumière. Wow. Pour moi, ça va être une agression et ça peut m'entraîner un MPE, comme on dit, un malaise post-effort. Vous voyez ? Donc respecter le fait que voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière, parler doucement. Doucement, c'est-à-dire pas fort, mais aussi doucement dans la vitesse, l'intonation de la voix, pas trop d'informations en même temps. Et surtout quand la personne, elle dit stop, et qu'elle le sent que ça va plus, et s'arrêter là. Et ça, c'est difficile, parce que souvent, bah, ça vient d'un coup, ou c'est très court, des fois, mon temps de... C'est un quart d'heure, une demi-heure. On aimerait se voir plus longtemps, mais non, il faut s'arrêter là parce que sinon après ça va être la cata. Et de toute façon, après, si je commence à se dire stop, après j'enregistre plus ce qui va se passer. Au contraire, je vais être de plus en plus mal. Vous voyez ? Et, enfin, c'est comme ça pour tout le monde, quoi. Et je tenais à dire que j'en ai pas parlé, mais du coup, moi j'ai deux enfants. Des ados. Et je suis émue quand j'en parle parce qu'ils sont adorables et je voulais vraiment en profiter pour leur rendre hommage entre guillemets et les remercier parce que malgré leur jeune âge et un âge un peu compliqué pour avoir une maman malade, ils me soutiennent, ils ont compris la maladie. Des fois, ils m'épatent dans les réflexions qu'ils font et ils m'accompagnent là-dedans d'une manière magique, en fait. Et heureusement qu'ils sont là. Ils m'apportent... Je dis toujours, quand ils arrivent, ils ouvrent la porte. J'ai l'impression de... Allez me prendre pour une folle. De voir d'avoir des fleurs qui dessinent au plafond. Je suis tellement heureuse de les voir parce qu'ils me ramènent de la vie, mais en même temps, ils arrivent à respecter ce cocon que je me suis fait, que j'ai été obligée de me faire, et la réalité de la maladie. Voilà, c'est important pour moi de parler d'eux et de parler de cette conscience qu'ils ont en fait.
Christine P., vous êtes aidante de votre fille Émilie, qui souffre d'encéphalomyélite myalgique, communément surnommée EM. Pouvez-vous nous décrire les symptômes généraux liés à la maladie ?
Alors, oui, je vais décrire les symptômes généraux, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que l'encéphalomyélite myalgique détruit complètement le quotidien des malades. C'est une maladie qui est très peu connue et qui est malheureusement extrêmement répandue. Puisqu'on pense que depuis l'épidémie de Covid, il y a au moins 1 million à 1,5 million de malades. Alors les symptômes, ben, en fait, ce sont des gens qui sont coupés de leur vie d'avant complètement, puisqu'ils ressentent une fatigue extrême. Mais quand on parle de fatigue, c'est pas « Oh là là, j'ai beaucoup couru, faut que je me repose », c'est pas ça. C'est un épuisement total, c'est-à-dire que chaque mouvement de la vie est un épuisement. Se laver les dents, ne serait-ce que se lever, aller faire sa toilette, bien sûr, faire la cuisine, tout ça provoque un épuisement. C'est accompagné aussi de douleurs musculaires, de problèmes de palpitations cardiaques, de migraines épouvantables. Alors, ce qui est assez compliqué, c'est que tous les malades n'ont pas tous les symptômes. Mais on retrouve beaucoup de choses en commun et le syndrome majeur de l'encéphalomyélite myalgique, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-effort. C'est-à-dire qu'un petit effort pour le commun des mortels peut faire rechuter le malade pendant 24 heures, des jours, des semaines. Mais quand je vous parle d'un petit effort, ça peut être aller acheter une baguette de pain à 100 mètres au bout de la rue. C'est des choses que, tant qu'on ne les a pas vues, on ne peut pas imaginer.
En France, d'après le site de l'assurance maladie, 250 000 personnes en souffrent. 80% sont des femmes. C'est énorme et pourtant la maladie est peu connue. Comment est-ce que vous avez découvert la maladie ?
Alors, moi, je voudrais d'abord corriger un petit peu vos chiffres parce que ça, ce sont les chiffres avant le Covid. Depuis le Covid, On estime qu'il y a plutôt 1 million à 1 million et demi de malades. Parce que c'est une maladie qui est déclenchée par un épisode viral, en général. Donc, ça peut être une grippe, ça peut être une mononucléose, ça peut être, je ne vais pas tous vous les citer. Mais le Covid a été un déclencheur majeur de l'EM. Alors, comment je l'ai découvert, vous me demandiez? Je l'ai découvert parce que ma fille est brusquement tombée malade. Mais le problème, c'est qu'on a mis une étiquette EM 5 ans après. Pendant des années, elle a été en errance médicale, comme tous les malades qui sont malades de cette maladie. Parce qu'au début, on dit burn-out, on dit épuisement, on dit toujours, c'est psychiatrique. Alors pourquoi pas? Mais non, en fait, ça l'est pas. Et maintenant, on commence à comprendre que non, il y a des causes qu'on ne connaît pas, mais qui sont des causes physiologiques. Malheureusement, le diagnostic ne peut être fait que à peu près dans 3 hôpitaux, je crois, en France. Angers, l'hôpital Mondor, pas Mondor, enfin l'hôpital à Créteil et à Montpellier. Donc ma fille est tombée malade une première fois en 2017. Là, on a dit burn-out, machin, psy, tout ce qu'on veut. Elle allait mieux et elle a attrapé le Covid. Et donc là, elle est retombée malade. Alors, elle a eu le premier Covid en mars 2020 et elle est retombée vraiment profondément malade en octobre 2020. Parce que la particularité quand même de cette maladie, c'est qu'on peut avoir une petite infection. Elle avait eu un petit Covid. On peut avoir une petite grippe. Et des mois après, on se retrouve avec cette maladie invalidante. Et c'est la chute de plus en plus terrible. Parce que comme les médecins ne savent pas l'identifier, ils vous font des recommandations qui sont complètement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, on dit, essayez de sortir, essayez de vous remuer, essayez de faire un peu d'exercice physique. Et c'est tout le contraire, puisqu'on déclenche ces fameux malaises post-effort et qui sont complètement destructeurs pour les malades. Donc, elle a été diagnostiquée à peu près 5 ans après le premier épisode. Et en attendant, on bidouille.
D'après l'OMS, c'est une maladie neurologique, c'est-à-dire qui touche au système nerveux.
Oui.
Les maladies neurologiques et les symptômes associés sont nombreux, leur diagnostic est donc complexe. En attendant, le diagnostic double peine pour les malades qui souffrent sans prise en charge. Est-ce qu'il est facile de faire reconnaître l'EM après avoir eu le diagnostic, c'est-à-dire de se faire accompagner?
Alors déjà, il faut arriver à avoir le diagnostic, parce que de ce qu'on sait, je ne veux pas avancer des chiffres, parce qu'ils seraient faux, mais on va dire que la plus grande majorité des malades ne sont pas diagnostiqués. Parce que pour être diagnostiqué, il faut être dans une ville où il y a la possibilité de diagnostic. Il faut aussi avoir une énergie de dingue, parce qu'il faut que le malade se batte pour faire reconnaître sa maladie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Donc déjà, il faut que ce diagnostic arrive. Et là, je dirais que c'est presque gagné, parce qu'une fois que le diagnostic est fait, on peut se tourner vers l'assurance maladie, on peut se tourner vers la MDPH, qui reconnaît le handicap. Mais le plus dur, c'est de faire reconnaître la maladie. Parce que la plupart des gens, la maladie n'est pas reconnue. Donc la sécurité sociale ne les reconnaît pas en affection longue durée, donc ils n'ont pas d'indemnité, ils ne sont pas reconnus comme travailleurs handicapés non plus, et donc ils n'ont pas de revenus.
Oui, c'est la précarité en plus.
Alors c'est la précarité totale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme la plupart des médecins ne sont pas formés à cette maladie, ils ne la diagnostiquent pas, comme ils ne la diagnostiquent pas les proches, ne reconnaissent pas non plus forcément la maladie. Et il y a beaucoup de familles qui sont dans le déni aussi par rapport à la personne qui est malade. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre pour eux, parce qu'ils ont besoin d'aide au quotidien, mais ils ne trouvent pas cette aide, et ils ne trouvent pas non plus des moyens de subsistance. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de malades qui vivent seuls, qui sont obligés de retourner chez leurs parents, parce que d'abord, ils ne peuvent pas subvenir à leur... Ils peuvent pas faire les tâches quotidiennes, et puis ils peuvent pas subvenir à leurs besoins financiers.
Pour des personnes qui auraient envie d'en savoir plus, est-ce que vous pouvez nous donner des sources ou des ressources ?
Oui, alors il y a plusieurs associations qui se battent pour faire reconnaître cette maladie et pour aider les malades. Donc il y a MMF, Million Missing France, donc qui est une rattachée à un mouvement international. C'est pour ça qu'on a ce sigle en anglais. En fait, c'est des millions d'oubliés. Il ne faut pas oublier ces malades. Donc c'est le site de MMF qui est très bien fait, qui vous donnera des explications sur toute la partie d'abord médicale et puis la partie administrative. Il y a aussi l'AFEMISE, AFEMISE, qui est une association qui est toute récente, qui se bat aussi pour faire reconnaître le M. Il y a aussi VOXEM. C'est essentiellement ces trois associations en France qui défendent l'encéphalomyélite méningique. Après, vous avez un site qui parle plutôt de syndrome de fatigue chronique, mais ce terme est contesté et contestable parce qu'il est plutôt enseigné aux médecins comme une maladie psychosomatique, ce qui n'est absolument pas le cas.
Christine P., vous êtes aidante. Votre fille Émilie souffre d'encéphalomyélite myalgique. Concrètement, comment cela affecte votre quotidien ?
Le mien ou le sien ?
Le vôtre.
Oui, le mien. Le mien, c'est très difficile d'accepter que son enfant tombe malade brutalement. Et qu'au début, on se dit, on va trouver ce que c'est, on va la soigner. Et puis voilà, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, elle va guérir et tout ça. Et puis petit à petit, vous vous rendez compte que non, c'est pas ça. Et puis, il n'y a pas de diagnostic. Donc on commence à dire... maintenant c'est psychosomatique, donc faudrait prendre des antidépresseurs, il faudrait voir des psychiatres, etc. Alors ma fille, elle a accepté tout ça, hein. Elle est allée voir des psychiatres qui ont dit, mais moi je peux absolument rien faire pour vous. Et donc vous êtes là, vous êtes complètement démunis, vous savez pas comment faire. Alors moi j'ai la chance d'avoir une fille qui est hyper positive et hyper bagarreuse, c'est-à-dire qu'elle a énormément cherché sur internet et elle a fini par trouver elle-même le diagnostic de sa maladie. Et à partir de là, elle a tout fait pour embêter les médecins, pour qu'ils l'obligent à aller passer les examens qu'il fallait, là où il fallait. Mais bon, tout ça, ça a pris 5 ans quand même. Et en tant que mère, c'est très douloureux parce que vous avez une fille qui était quelqu'un de très dynamique, qui faisait plein de choses. Elle n'arrêtait pas d'aller dans le monde entier. Elle était vivante, elle était chanteuse, elle avait une activité artistique importante, etc. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Et du jour au lendemain, et un peu plus tard, vous savez qu'il n'y aura vraisemblablement plus rien. Donc... comment on vit ça ? On le vit pas bien du tout. On le vit pas bien du tout parce qu'on se retrouve... en l'occurrence, moi, j'avais 70 ans. Je me retrouve parent d'une enfant malade, mais qui n'est plus une enfant, qui est une adulte malade, mais qui a besoin d'aide quand même parce que dans le cas grave, les phases graves de sa maladie, elle pouvait pas se lever, pas faire ses courses, pas manger, pas... Voilà. Et en même temps, on n'est plus du tout dans une relation parent-petit-enfant, quoi. Donc c'est très compliqué. Et puis c'est très difficile d'accepter que pendant 40 ans, elle a été une personne et maintenant, ça va être une autre personne. Et il faut accepter ça. Et ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps. Je ne sais même pas si j'ai réussi encore à l'accepter. Mais bon, c'est comme ça, hein.
Donc il y a une perte d'autonomie. Oui. Et puis ça modifie, selon le site des millions d'oubliés, site dédié à faire connaître l'EM. La plupart des malades renoncent à des carrières ou des loisirs qu'ils aiment. Comme vous l'avez expliqué, c'est le cas d'Émilie qui a dû renoncer. Oui. Du coup, maintenant, quelles sont les perspectives ? Comment est-ce que vous envisagez la suite ?
J'essaye de ne pas l'envisager, en fait. C'est-à-dire que je me dis que ça va être comme ça. ça va être comme ça, elle va faire... Alors, comme je disais, elle a une force de caractère très importante. Pour vous donner quand même une... ce que c'est que l'EMM, pour vous dire ce que c'est que l'EMM, la seule chose qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent le pacing, c'est un terme un peu barbare. Ça veut dire qu'il faut se reposer sans arrêt, et surtout avant d'être fatigué, et après avoir fait quelque chose. Donc actuellement, sa vie, c'est elle se repose 20 minutes toutes les heures dans le noir avec des boule-caisses dans sa chambre sur son lit. Donc ça lui reste 45 minutes, enfin voilà, 40-45 minutes d'autonomie. C'est ça sa vie. Mais elle, elle fait. Il y a une dame que je connais qui a une expression extraordinaire. Elle dit : il y a des gens, on leur donne des citrons, ils en font de la limonade. Ben, ma fille, c'est ça. On lui donne des citrons, elle fait de la limonade. C'est-à-dire que, du coup, elle a une richesse intérieure qui s'est développée. Elle écoute énormément de livres audio, puisqu'elle ne peut plus lire, mais elle peut écouter des livres audio. Donc, elle écoute de la philosophie, elle écoute des choses qui la nourrissent, des choses qu'elle n'aurait jamais faites si elle avait eu sa carrière active, etc. Donc, pour un parent, en fait, il faut accepter que... l'enfant qu'on a mis au monde, qu'on a élevé, qui a fait des études, qui s'était orienté vers une carrière, et ben devient une autre personne, mais qui peut être tout aussi formidable. Et peut-être des fois plus, d'ailleurs, parce que ça oblige à avoir une richesse intérieure. Mais quand vous me dites comment je vois son avenir, ben je le vois quand même pas rose. Je m'inquiète, bien sûr. Je m'inquiète. Et puis, comme on en parlait dans la première partie, il y a les problèmes financiers aussi. C'est qu'elle, elle a eu la chance, entre guillemets, d'être en invalidité, d'être reconnue handicapée. Mais d'abord, c'est pas éternel. Et puis, c'est remis en question. Et puis, de toute façon, c'est très peu d'argent, de toute manière. Et ça suffit pas à couvrir les frais liés à cette maladie.
Et juste pour préciser, quand vous disiez que justement elle ne lit plus, c'est bien lié à la maladie puisque oui.
C'est les problèmes cognitifs, c'est-à-dire qu'elle a le cerveau qui est dans ce qu'ils appellent un brouillard cérébral, un brouillard mental, qui fait qu'il y a des problèmes de concentration qui sont très importants et qui font que quand elle est très fatiguée, elle ne peut même pas parler au téléphone. On échange par texto parce que parler au téléphone l'épuise trop. Voilà, voilà ce que c'est cette maladie. Et ça, pour une mère, c'est quand même pas facile.
Alors, dans la liste des choses pas faciles, donc c'est une maladie qui, d'une manière positive, n'est pas dégénérative, mais par contre, c'est une maladie qui n'a pas de traitement.
Non.
Mais il semblerait que quand même, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui peuvent aider à maintenir un état plus stable.
Alors, c'est ça en fait. Il faut que le malade apprenne par lui-même ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et la seule chose qui est efficace, c'est ce fameux pacing, donc ce repos dans le noir avec des boule-caisses, c'est-à-dire se couper de toute sensation extérieure. Et ça, il faut le faire. Donc, selon l'état de la maladie, soit une demi-heure toutes les deux heures, soit 20 minutes toutes les heures, soit voir, il y en a qui sont toute la journée dans cet état-là. Et il faut apprendre, ben, par exemple, si on doit avoir une visite médicale le lendemain, et ben, la veille, on va rester au lit toute la journée et on sait que le surlendemain, il faudra rester au lit toute la journée. Sinon, la maladie va se dégrader encore, l'état va se dégrader encore plus, quoi. Et ça, les malades l'apprennent à leurs dépens, mais au bout d'années et d'années. Parce que ce sont des conseils que les médecins généralistes ne connaissent absolument pas. Au contraire, on leur dit « bougez-vous, sortez, aérez-vous ». Enfin, voilà, et c'est tout à fait contre-productif.
Et juste pour revenir sur combien de temps cela a pris pour qu'elle soit diagnostiquée ?
Ben, je ne me souviens plus bien, mais je dirais 5 ans.
5 ans avant que quelqu'un...
Oui.
Et c'est plutôt venu d'elle.
C'est-à-dire que oui, c'est venu d'elle, parce que... Après une hospitalisation à la Riboisière d'une journée en migraine, on l'a dirigée vers le centre antidouleur, qui lui-même l'a dirigée vers la médecine interne. Elle a été hospitalisée une semaine dans un service de médecine interne. On lui a fait tous les examens. Bien sûr, on n'a rien trouvé, on ne connaît pas les marqueurs encore de cette maladie. Mais elle s'est battue pour avoir cet examen à Créteil. où là, on a une imagerie du cerveau, mais ça, il a fallu 2 ans pour avoir le rendez-vous. Et c'est là qu'elle a eu, finalement, le diagnostic. Et c'est ce diagnostic qui a permis, parce qu'elle est tombée aussi sur une médecin de la Sécurité sociale, entre guillemets, intelligente, je ne dis pas que les autres sont bêtes, mais enfin bon, qui était ouverte et réceptive, qui lui a permis d'être en ALD, en affection longue durée, donc d'être indemnisée par la Sécurité sociale. Et ensuite, le fait que ce soit l'hôpital lui-même qui ait fait le dossier de demande de handicap a aussi fait qu'elle a été validée handicapée. Mais c'est malheureusement pas du tout le cas de tous les malades.
Et vous, combien ça vous a pris de temps pour justement comprendre comment l'aider, comment venir en sous-soutien ?
Des années, je dirais. Des années. J'ai dû me faire aider, moi aussi. J'ai pas. C'est très violent. C'est vraiment très, très violent, quoi. Bon, je pense que maintenant, on est arrivé un peu plus à un équilibre. Mais ce qui est très dur dans cette maladie, c'est comme on disait, les mieux ne sont pas des encouragements. C'est mieux aujourd'hui, mais demain, ça peut être pire. Et ça, même moi, aujourd'hui encore, j'ai beau le savoir, je ne l'intègre pas. Quand elle va mieux, je me dis, ah, ça y est. Et puis non, elle va plus mal après. Donc ça, c'est très difficile. Et peut-être, je dirais, c'est presque plus difficile pour moi que pour elle, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'elle, ça y est, elle a admis, elle a intégré, elle vit avec. Évidemment, j'imagine qu'elle aimerait mieux que ce soit autrement, mais c'est plutôt moi qui ai du mal, oui.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Ben, écoutez, non. Simplement, je voudrais dire que... Enfin, c'est pas finir sur une note optimiste, mais il faut savoir qu'il faut une force de caractère vraiment très très grande pour supporter cette maladie et que tous les malades ne l'ont pas. Alors paradoxalement, il y a plus de femmes qui sont malades que d'hommes, mais les hommes se suicident plus que les femmes parce qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Et bon, moi je pense qu'il faut quand même garder espoir. Il y a peu de recherches. Ça, c'est vrai, en France en particulier. On n'a pas l'équivalent du Téléthon, du SIDAction, d'Octobre Rose, de je ne sais quoi. C'est une maladie dont on ne parle pas assez. Alors que, honnêtement, il y a au moins plus d'un million, 1,5 million de malades. Donc c'est pour ça que ce 12 mai est très très important, cette période, parce qu'il faut en parler de cette maladie. Il faut que les gens qui ne sont pas diagnostiqués puissent se reconnaître peut-être dans ce que j'ai raconté. Et il faut aussi que les médecins écoutent les malades et que les médecins, quand ça rentre pas dans leur cadre de diagnostic, ils disent pas c'est dans votre tête. Non, ça peut être ailleurs, sauf qu'ils savent pas le chercher quoi, et le trouver. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Vous venez d'entendre un témoignage sur l'encéphalomyélite myalgique, maladie chronique dévastatrice, reconnue depuis 1969 par l'OMS.